Gloire à Dieu. Alors, le pire, c'est que les gens ne savent pas que Dieu est grand. Et ça, c'est après, c'est une tragédie. Une tragédie qu'on ne le sache pas. Tout à l'heure, on va entendre, vous rappelez qu'on va entendre des témoignages, hein? Non? Vous rappelez que l'on va, il y a différentes manières de rendre un culte à Dieu. Et là, c'est de rendre des témoignages, c'est-à-dire de manière concrète, expliquer ce que Dieu fait aujourd'hui dans une vie. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui accusent Dieu. Aussi simple. Et c'est vrai que quand on ne le connaît pas, et qu'il nous arrive des malheurs, mais à vrai dire, je ne connais pas une personne sur Terre à qui il n'est pas arrivé, non pas un malheur, mais des malheurs. Que les personnes aient été victimes du péché des autres, que les personnes aient été victimes de leurs mauvais choix. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'arrive pas un malheur à une personne, il arrive des malheurs à chaque personne. Alors, ça ne va... Pourquoi ? Parce que la terre n'est plus ce qu'elle était. Et c'est marrant parce que les gens disent « je ne crois pas en Dieu », mais quand ils sont dépassés par les difficultés, là, ils l'accusent. Et ça, c'est une incohérence. Cela veut dire que, oui, chaque personne croit en Dieu. Oh, on dit « pasteur », là, tu... Shocking. C'est pas vrai. Si c'est vrai, on accepte sa suprématie d'amour. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui règne en imposant. Mais la Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 3, que chaque être humain a en lui, hein, Ecclésiaste, chaque être humain a en lui la pensée de Dieu. C'est aussi simple que ça. Chaque être humain a en lui la pensée de Dieu. Si bien que chaque être humain pense à Dieu au moins une fois dans sa vie. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on a la pensée de Dieu. C'est simple. Après, ou bien on rejette cette pensée, ou on l'accepte. On accepte de la considérer. On accepte d'y repenser. Et d'autres disent « Non, moi, je ne veux pas y penser. » Mais, quand il y a un problème, ils y pensent. Alors, le mieux, c'est la bonne approche. C'est oui, accepter que la Bible a raison. Et non, on ne peut pas lui faire dire ce que l'on veut quand on suit des règles d'interprétation qui sont valables pour tous les chrétiens, quelle que soit la fin du nom de leur dénomination. Il y a des règles d'interprétation. Et donc non, dans ce sens-là, on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle veut. Mais il y a une bonne approche. Quand on a un problème où on peut regimber contre les aiguillons, comme la Bible dit, c'est-à-dire « Waouh, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute !» Et là, je ne voudrais manquer de respect à personne, mais ça s'appelle de l'ignorance. Mais la Bible dit « Cherchez et vous trouverez. » Et quand quelqu'un est vraiment sincère, tu dis « C'est quoi ? Moi, je veux faire preuve d'humilité. J'accepte que je ne sais pas tout. Alors, je veux bien savoir quelle est la vérité. » La Bible dit « Cherche et tu trouveras. » Demande. Et l'on te donnera. Frappe, et l'on vous répondra. Quelle est la bonne approche quand on a un problème ? Ce n'est pas mon message. Hein. Quelle est la bonne approche quand on a un problème ? Au lieu d'accuser un Dieu qui n'a rien à voir, Dieu est un père. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime que le malheur arrive aux gens et certainement il ne l'envoie pas ce malheur. Mais ce qui est sûr, c'est que Cette terre, au départ, n'était pas ainsi. Cette terre, il y avait le paradis sur terre. Et nous, les êtres humains, alors que nous avions une relation avec Dieu, Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Ils avaient la nature de Dieu. Et ils étaient supposés étendre ce paradis, ce jardin d'Éden, à toute la terre. Toute. Et ainsi, nous aurions vécu. Dans un jardin d'Éden. Mais parce que l'être humain est libre, aussi libre, il y a presque 6000 ans que nous le sommes aujourd'hui, chacun de nous, chacun sur Terre. Parce que l'être humain est libre, il a choisi de vivre sur Terre à sa manière, sans Dieu. Et le résultat des injustices, le résultat des catastrophes, même naturelles, que nous voyons aujourd'hui, le résultat des guerres, c'est le résultat de la vie sans Dieu. Pas de sagesse, pas d'amour, juste de l'égoïsme, juste des intérêts financiers en jeu. La terre est déréglée à cause du choix de l'être humain. Mais Dieu... Franchement, qu'a fait le Seigneur ? Qu'a fait notre Père céleste ? Il a dit, je ne peux pas accepter que l'être humain vive dans de telles conditions. Je vais lui donner une occasion de retrouver une vie avec moi, la communion avec moi. Et il a envoyé Jésus-Christ, qui a payé pour notre rébellion. Et il a payé, c'est pas à coup de millions de dollars, à coup de milliards d'euros, de quelle que soit la monnaie que vous vouliez. Il a payé de sa vie par son sang. Il a versé son sang en échange de notre rébellion. Et aujourd'hui, quand on entend cette nouvelle que Jésus-Christ est le chemin vers le Père, et que nous acceptons le pardon qui nous est offert, alors le Père change notre cœur, il nous donne sa nature à nouveau, et nous retrouvons la conscience de Dieu. C'est énorme d'avoir la conscience de Dieu. Et quand il nous arrive un problème, parce que Dieu ne dit pas « accepte Jésus dans ta vie », et tu n'auras plus de problème. Tant que nous sommes sur terre, il y en aura. Il y aura des pressions, il y aura... Les choses n'iront pas comme on voudra, etc. Ça, c'est la vie sur terre en attendant qu'on aille au ciel. Mais aujourd'hui, au lieu de pointer du doigt de rébellion contre Dieu, au lieu de pointer un doigt accusateur contre Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? On l'invite dans notre situation parce qu'on sait qu'il nous veut du bien. Et la différence, c'est qu'il nous sort de notre ornière, il nous sort de notre gourbi, il nous sort de notre goudron. Certains, ils y sont, mais les deux pieds dans le goudron, voire le ciment est bien planté dedans. Hein. Le ciment a pris depuis longtemps, ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus bouger de leur situation, ils ne peuvent plus bouger de leur maladie parce qu'on leur dit que c'est incurable, ils ne peuvent plus bouger de leurs problèmes financiers parce qu'ils sont dans les dettes jusque-là, ils ne peuvent plus bouger de leur manque de pardon parce que ça les a rongés jusque dans l'intérieur, ils ne peuvent plus. Mais la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Et quand la Bible dit rien, rien en français, c'est
rien.
C'est rien. Alors la pire, quelle est la bonne approche quand on a un problème ? C'est de dire, mon Dieu, je ne peux pas m'en sortir. Viens, s'il te plaît, viens. Sors-moi de là. Et que fait le Seigneur ? Parce que nous lui avons donné autorité, il le fait. Je ne dis pas qu'il le fera du jour au lendemain, forcément, bien que ça puisse arriver. Des miracles, du jour au lendemain. Mais très souvent, c'est une nouvelle manière de penser. On va avoir une nouvelle manière de penser. On va avoir peut-être une nouvelle idée. Ou alors quelqu'un va peut-être effacer une dette. Ça, alors, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je l'ai vu, ça. Les gens qui ont dit, j'étais couvert de dettes, et puis le Seigneur m'a donné la faveur, ma dette a été effacée. Ou alors, eh bien, trouver vraiment une bonne affaire, faire une bonne affaire. Dieu agit à travers les circonstances, mais il ne peut pas le faire sans notre autorisation, parce que nous sommes libres et que Dieu n'est pas un gourou. Il n'est pas à la tête d'une secte, notre Dieu. Il n'est pas. Alors oui, quand nous chantons, Dieu est grand. Ben moi, je vous souhaite de savoir jusqu'où et de savoir à quel point c'est vrai. Alors, oui, nous avons quelque chose à raconter. Nous avons des histoires. Un témoignage, c'est quoi ? Ben, c'est l'histoire de Dieu dans ma vie. C'est dire, je suis témoin. Alors, nous, on ne parle pas des témoins de Jéhovah. On a passé le stade, c'est une secte. Hein. Mais néanmoins, que fait une secte ? Elle prend un mot qui est dans la Bible et elle en change le sens. Néanmoins, la Bible dit, vous serez mes témoins. Elle dit ça à tout le corps de Christ partout sur terre. C'est-à-dire, eh bien, quand on a accepté Jésus dans notre vie, on devient témoin de ce que le Dieu vivant fait. Un témoin, c'est quoi ? C'est pas quelqu'un qui raconte par procuration. Bon, on m'a dit que Dieu est bon. On m'a dit qu'il fait des miracles. On m'a dit qu'il guérit les malades. On m'a dit qu'il fait ce... Ça, c'est pas un témoin. Mais un témoin qui dit, j'ai vu de mes propres yeux la bonté de Dieu. J'ai entendu de mes propres oreilles qu'il est grand. J'ai expérimenté son toucher dans ma vie. Je sais, voilà ce qui s'est passé. Dieu, j'étais dans cette situation. J'ai invité le Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, voilà où je suis. Voilà le travail que j'ai. Voilà où j'habite. Voilà ce que je peux. Voilà la santé dans laquelle je me trouve. Voilà ceci, voilà cela. Vous savez, on ne vient pas à l'église uniquement pour entendre une nouvelle manière de vivre, parce que la Bible dit que quand nous avons accepté Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en nous de nouveau, qui est le fait que nous ayons reçu la nature de Dieu. Eh bien maintenant, il y a de nouvelles pensées en nous, il y a de nouveaux désirs, il y a une manière, nouvelle manière de parler, etc. Et le plus grand témoignage, les gens disent « Oh, j'ai pas de preuve que Dieu existe. » Ah, bah t'en as une devant toi, en chair et en os. Voilà comment j'étais avant et voilà comment je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grande preuve. Ça, on ne peut pas dire « Non, non, mais tu sais, ça c'est du baratin. Non, mais le médecin s'est trompé. » Alors ça, quand le Seigneur guérit, très souvent, on entend les médecins qui disent « Non, non, mais vous savez, on s'est trompé. » Non, mais la radio est là. Les prises de sang, les résultats sont là. Admettez plutôt qu'il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne comprenez pas. Ça, j'accepte que vous le disiez. Merci. Une femme pasteur, ça veut dire quelquefois il y a le maquillage qui coule quand il fait chaud. Mais Dieu agit. Et non seulement il agit, mais il n'arrête pas. Vous réalisez qu'il y a des prières que vous avez faites il y a 3 ans. Vous ne les avez pas encore vues réaliser, mais Dieu est en train de penser à vous en ce moment. Il est en train de penser. Il est en train d'œuvrer, il est en train de travailler en votre faveur. Il y a des prières que vous avez faites pour peut-être 10 ans d'ici. Hein? Enfin, je ne sais pas, vous me regardez comme si c'était étrange. On peut prier pour ce qui va se passer dans 10 ans d'ici. Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est le Dieu que l'on sert. C'est pas tout de dire Dieu est grand. Tu parles, si on accepte la notion de Dieu, Dieu est grand. Et tout à l'heure, on l'a chanté. Dieu est grand pour moi. C'est une chose d'accepter de dire Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. Ça, c'est une chose. Dieu est grand. Ça, c'est une chose. Mais Dieu est grand pour moi. Ça, c'en est une autre. Ah, je crois que les enfants vont aller faire des... Il y a de belles surprises pour vous à côté. Gloire à Dieu. Alors, avant d'entendre les témoignages, eh bien, je...
Eh ben, chacun sa course, moi je préfère la mienne, en Christ. Alors, il y a
beaucoup de personnes qui manquent ce matin, et nous nous rappelons que Juliette s'est mariée hier, Elle s'est mariée à Soulac, dans l'Ouest. Donc, pasteur Marc est allé là-bas faire la cérémonie, puisque c'est le lieu qu'elle avait choisi. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... À la fin, on vous montrera des... je ne sais pas, peut-être que la semaine prochaine, non ? Oui, mais peut-être la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que au moins sa maman sera là, et ils sont certainement contents de montrer eux-mêmes les photos. Elle est belle, elle était vraiment belle, Juliette. Donc, beaucoup, pasteur Marc et sa famille sont montés là-haut, beaucoup de l'église sont montés là-haut également. Et donc, voilà. Alors, est-ce que... Ah, les annonces maintenant, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on entendra les témoignages après. Et vous avez préparé quelque chose à raconter ? Hein ? Est-ce que vous avez préparé quelque chose à raconter ? J'ai hâte de l'entendre. C'est toi, Morgan ? Une raison de plus, se sentir appelé. C'est mignon. Se sentir appelé. À partir de 50, tout le monde se sent appelé. Non, mais franchement, vous savez, ce groupe-là, il a... Alors, on le finit là maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire encore aux personnes qui ont plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous fait croire, les employeurs disent « Ouais, vous avez plus de 50 ans, style, vous n'êtes plus bon à rien. » On a vu que la parole de Dieu a donné des missions à des gens qui avaient 80 ans. Bah oui, Moïse. Et on a vu que Dieu ne pense pas du tout pareil. C'est qu'il a des projets pour nous, mais quand on accepte qu'on n'est plus bon à rien, eh bien, le seul effort que l'on ait à faire, c'est d'allumer son poste de télé et de regarder. En général, de dormir devant. Mais il y a juste quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 80 ans qui ont une expérience extraordinaire et tout le talent qu'ils ont est devant la télé. Pendant ce temps, vous avez des jeunes qui font des erreurs, des plus jeunes, je ne parle pas de plus jeunes, peu importe quel âge, qui font des erreurs alors qu'ils auraient pu les éviter si quelqu'un avait accepté de partager ce qu'il sait. Alors, donc, on a vu qu'à vrai dire, 80 ans, c'est encore jeune, c'est presque un bébé encore. Parce que la Bible parle de la limite d'âge que l'on a, et la limite d'âge, c'est pas 80, c'est pas 87 ans, c'est pas 90, c'est 120. Mais les gens se préparent à partir à 70 ans. Certains se préparent bien avant, d'autres disent, oh, moi j'atteindrai pas 40. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils n'atteignent pas 40, parce que la Bible dit qu'il en soit fait selon ce que tu dis. Mais quand on connaît la vérité, alors on a le choix de vivre différemment. Gloire à Dieu. Alors, avons-nous, je vais vous lire un passage, hein, dans Actes déjà, Actes des apôtres, apôtre veut dire envoyé, hein. Donc le livre des Actes des apôtres, eh bien, c'est nous qui sommes en train d'écrire le 29e chapitre. Le livre dans la Bible n'en a que 28 chapitres, mais à vrai dire, ce livre-là continue à être écrit et les témoignages, ben, ils sont écrits par nous. Alors, la Bible nous dit, verset chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous recevrez, donc c'est Jésus qui dit, hein, vous recevrez une puissance. Et il nous est dit que cette puissance n'est pas une force, parce que tout de suite après, il nous est dit le Saint-Esprit. Donc c'est la puissance, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que chaque chrétien doit être un témoin qui parle Jésus, doit être un témoin de Jésus. C'est-à-dire que chaque chrétien est invité à voir et à entendre, à vivre, à être dans des circonstances où Jésus est en train de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Jésus est vivant. Et puisque Jésus est vivant, Jésus continue ce qu'il a commencé sur terre. Il continue à prophétiser, il continue à enseigner à travers le Saint-Esprit, il continue à guérir, il continue à délivrer, il continue à distribuer sa sagesse, il continue à faire toutes ces choses-là. Et chaque chrétien est invité à le voir faire quelque chose. Pas simplement dans la vie des autres, dans la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église, mes amis. Alors, ça semble être ahurissant que ce soit un pasteur qui le dise. Mais c'est ça. Parce qu'à l'église, on passe très peu de temps ensemble. Ensemble, nous constituons l'église. Mais si Jésus ne devait être vu que quand nous sommes ensemble, il y aurait de belles choses à voir, mais il n'y en aurait pas tant que ça. Mais le fait qu'il vive avec nous en dehors, quand on est à la maison, quand on élève les enfants, quand on est au travail, quand on part en vacances, etc. Le fait que Jésus soit vivant et qu'il agisse avec nous là où nous sommes, parce que nous sommes un avec lui, unis à lui, eh bien, là où nous sommes, en vacances, nous sommes témoins de quelque chose qu'il fait. Dans l'éducation des enfants, nous sommes témoins de quelque chose qu'il fait. Au travail, nous sommes témoins de quelque chose. Nous voyons quelque chose qu'il fait. Et c'est bien d'avoir les yeux qui nous donnent de voir ce qu'il fait. Parce que quand on voit qu'il fait quelque chose, quand on le voit, ça évite de dire, c'est moi qui l'ai fait. Vous ne pouvez pas savoir nombre de personnes où j'ai vu Dieu agir. Ces personnes étaient dans des circonstances qui étaient difficiles. Ces personnes étaient dans des circonstances où elles ne pouvaient pas s'en sortir elles-mêmes. Et il a suffi de dire à ces personnes, ben vas-y, demande à Dieu d'intervenir, prie, il va le faire. Les personnes l'ont fait, ont peut-être prié avec un autre chrétien. Le Seigneur a commencé à bouger les circonstances, à changer les cœurs, à donner la faveur ici, la faveur là. La situation a été complètement retournée. Et en bout de compte, les personnes disent, non, je ne sais pas si Dieu existe. Pardon ? Tu veux que je te rappelle d'où tu viens ? Mais c'est beau de pouvoir dire, j'aimerais vous dire ce que j'ai vu Jésus faire. J'aimerais vous le dire. Alors, qui veut commencer à nous le dire ? Alors ça, c'est embarrassant pour un pasteur quand on dit quelque chose avec enthousiasme et que personne, voilà, le premier. Ah bah attendez, vous allez me faire penser passer pour une menteuse là, hein ?
Non.
Il y a un petit
pas de danse pour celui qui arrive.
Alors du coup, je travaille avec des clients, forcément. Je fais de la livraison, je vais chez eux. Donc à force, ça fait 5 ans que je suis chez Thierry, donc il y a des personnes forcément que je connais. Je connais aussi les bons et les mauvaises choses qu'il y a aussi dans leur vie. Et il y a une cliente, il y a...
Alors, ouais. Tout le monde ne te connaît pas.
Ah.
C'est pas parce que tu me mêles.
Il y a Internet, c'est vrai.
Ça n'est pas parce que tu te mêles de leurs affaires, rassure-moi.
Hein?
Pourquoi dis-tu que tu connais les bonnes choses et les mauvaises choses?
Non, c'est parce que du coup, il y a un lien qui se crée. À force de m'entendre au téléphone, d'aller les livrer, forcément, on discute du beau temps, et puis après, il y en a certains, mais on parle aussi un peu de leur vie ou autre. Donc, voilà. Donc,
je partage avec toi.
Ouais. Okay. Puis je partage aussi les miens. Et pas tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une cliente, justement, j'ai déjà partagé ma foi avec elle il y a 2 ans, sûrement. Et puis, elle était ouverte, elle croyait. Mais en fait, elle a une maladie, c'est une maladie musculaire, le nom, je ne sais plus. Mais en fait, elle. Autour de 50 ans, par là, sa santé a commencé à décliner. Et puis maintenant, elle est obligée de rester allongée sur son lit, elle est fatiguée. La moindre fois que je dois la livrer, je dois la prévenir une demi-heure avant, le temps qu'elle descende de son lit, qu'elle vienne sur sa chaise, pour que je puisse la livrer. Puis après, elle me dit qu'elle va être tranquillement ranger ses affaires, ses produits dans son frigo. Donc, c'est un gros souci. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Donc elle a juste des médicaments pour amortir le choc, et puis voilà. Et c'était la semaine dernière, du coup, je lui ai reparlé... cette semaine, j'ai repris le travail cette semaine. Donc après, je lui ai reparlé justement de ce qu'on avait discuté, et puis je lui ai dit, si vous voulez, moi je peux prier pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête? Donc en fait, au niveau de sa maladie en elle-même, elle ne voulait pas que je prie pour ça. Par contre, elle avait un souci au genou, elle avait super mal. Et c'est ce qui l'empêchait en plus de se tenir debout pendant plus longtemps. Donc j'ai prié pour elle, comme on prend autorité, comme on a appris ici. Et puis après, elle sentait qu'au niveau du genou, justement, elle pouvait rester plus longtemps debout. Parce qu'après, on a discuté, elle était restée debout, puis elle avait plus mal. Donc voilà, c'était bien. Puis en fait, je lui ai dit qu'il faut faire un pas de foi aussi. Alors je l'ai fait bouger, ce que j'avais vu aussi pour les guérisons, c'était pas de foi. Puis elle y a cru, elle l'a fait, donc voilà. Donc Dieu a fait le travail.
Ouais. Et alors ?
Et puis après, je lui ai dit par contre aussi qu'elle dise pas qu'elle a plus mal alors qu'elle a encore mal. Il faut vraiment qu'elle me le dise. Parce que après, moi, je veux pas me vexer, c'est pas moi qui décide. Et du coup, non, elle m'a dit que ça s'est beaucoup amélioré. Donc après, j'attends la suite après pour savoir quand il y aura la guérison après pour le reste. Donc voilà. Et juste une info aussi, c'est que j'ai souvent ça dans mon camion. Donc en fait, c'était avec Eric Casto. Enfin, il faut toujours avoir quelques exemplaires de l'évangile qu'on donne aux personnes. Comme ça, c'est une semence. Au moins, on leur dit, vous lisez. Et puis, c'est ce qui va les fortifier lorsqu'ils ont mal, mais lorsque ça va bien aussi. Donc voilà. Puis c'était ça. C'est déjà bien, je pense.
Bien. Merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, cette... dame là apparemment est soulagée, grandement soulagée, et c'est ce que le Seigneur nous dit, il nous dit, eh bien, à la croix, Jésus a rendu la guérison disponible. Alors il y a plusieurs manières d'être guéri, les médicaments tout simplement, mais quelquefois les médicaments ne peuvent plus, ne suffisent plus, et le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et moi je les guérirai. Alors, cette dame-là, eh bien, tu pourras prier pour elle, pour le reste de sa santé, uniquement si elle accepte. Mais peut-être qu'elle sera encouragée à faire confiance au Seigneur, vu qu'elle a vu que quelque chose de concret s'est passé dans son genou, quoi. Gloire à Dieu. Bien. Oui, Evelyne, c'est toi ?
Bonjour à tous. Alors, il y a 15 jours, ça fera 15 jours mardi, on a appris sur un bébé qui avait un mois et demi, qui était totalement anémié, qui a dû être transporté d'urgence à l'hôpital avec une transfusion sanguine. C'est quelqu'un de proche de notre famille. Et de suite, nous avons prié, le mardi soir, nous avons prié à la réunion de prière pour ce bébé. Le samedi, j'étais chez le coiffeur, qui est une amie de la famille, et à la seconde, elle a eu un coup de téléphone. Le bébé, en 3 jours, a pris 200 grammes. Donc déjà en soi, c'était énorme. Et là, on a prié, j'ai continué à prier, j'ai continué à livrer, et je sais qu'il n'y a pas que moi, je remercie ceux qui l'ont fait. Et on a prié vraiment pour lier les œuvres du diable. J'ai dit, ce bébé, Seigneur, il est hors de question, c'est ta création, tu avais prévu, avant qu'il vienne au monde, tu as des plans pour lui. Et le plan que tu as pour lui, c'est pas qu'il quitte cette terre. Parce que les médecins pensaient à un cancer, à une leucémie déjà. Donc elle a fait un prélèvement de la moelle osseuse. J'ai parlé avec la grand-mère, on a parlé avec la maman indirectement. Du coup, toute la famille s'est tournée vers Dieu. Toute la famille a été priée pour ce bébé. Et avant-hier, j'ai eu un coup de téléphone. Ils ont fait un prélèvement de la moelle osseuse. Il n'y a rien. Et je déclare qu'elle est guérie complètement. J'ai dit à sa grand-mère, tu sais, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, Dieu est le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, tu peux voir. J'ai dit, Dieu va agir, continuer d'agir dans la vie de cet enfant, dans la vie de ce bébé. Et elle est en bonne santé. Elle m'a dit, t'as raison. Ça sera qu'un passage qui est comme ça parce que je crois qu'elle va s'en sortir complètement. Du coup, toute la famille est affectée par ce que Dieu a fait.
Voilà. C'est dire, voilà ce que j'ai vu le Seigneur faire. Est-ce qu'il y a... Oui ?
Souvent je me pose la question, je me dis quelle serait ma vie, quelle serait notre vie en fait dans notre famille si on marchait pas avec Dieu en fait, hein. Et y a des situations des fois dans la vie quand on est chrétien, on se dit qu'est-ce qui se serait passé si je marchais pas avec Dieu dans telle situation. Je vais vous raconter une histoire, c'est un tout petit peu long, mais je vous demande de suivre du début jusqu'à la fin. Il y a quelques semaines, avec donc Laurence et nos trois enfants, on est parti. En fait, on a loué un camping-car. Et dans l'église, bon, ils sont pas là parce qu'ils sont au mariage de leur nièce, mais c'est la famille à l'argent. Et ils ont un camping-car qui ils sont inscrits sur un site et ils louent ce camping-car. Et donc Frédéric me dit écoute, si tu veux, on fait ça comme ça. Je te loue et puis. Et puis après, il me dit, bon, finalement, il faudrait peut-être mieux passer par l'assistance, avec le site, parce que tu auras le droit à l'assistance, tu auras droit à tout ça. Bon, alors je fais comme il me dit. Et puis, c'était un vendredi soir, et puis nous voilà partis. Et on est parti un peu tard le vendredi soir, et puis on est à hauteur d'Aix-en-Provence, on est sur l'autoroute, on roule à 90-100 km/h, donc un camping-car, ça va pas très vite. Et ce camping-car, il est en très très bon état, mais vraiment très bon état. On dirait qu'il est quasiment neuf, sauf qu'il a 14 ans, en fait. Voilà. Et il a très peu de kilomètres, mais voilà. Et puis on roule à 90-100 km/h. Et puis je dis à Laurence, disons, le revêtement sur la route, il est vraiment pas bon. Hein. On sentait comme des vibrations, en fait. Et au moment où je dis ça, quelques secondes plus tard, un truc qui explose, en fait. Et là, je perds le contrôle du camping-car, en fait. Il commence à partir dans tous les sens. J'entends ma femme qui prie en langue à côté de moi. Et donc, on était sur l'autoroute. Bande d'arrêt d'urgence et un renfoncement. Bon, j'arrive à me mettre là dans ce trou. Purée, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faisait nuit. Je prends la lampe. Je fais le tour. Je regarde et je passe l'autre côté. Le pneu explosé. Mais quand je dis explosé, c'est pas un trou. Il y avait la carcasse en ferraille qui sortait. Le truc explosé. Oh ! Je vois ça, je dis, c'est pas possible. On a dû prendre un clou, quelque chose, et le pneu a explosé. Bon, il était 23h. J'appelle Frédéric, je dis, Fred, on a explosé un pneu sur l'autoroute. Ah bon ? Je dis, il y a une roue de secours sur le camping-car. Je sais pas. J'ai jamais crevé. Trouve la roue de secours, trouve les outils pour ça. Tout à l'heure, le pasteur parlait de l'intelligence, en fait, que des fois, le Saint-Esprit peut mettre en, fait, en nous. Des fois, on fait des choses, et on se dit, après, moi, ça m'arrive très souvent. Je fais des choses et après je me dis, mais Seigneur, tu m'as donné l'intelligence, des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Et ça, c'est des choses que quand on est chrétien, en fait, eh ben, ça vient instantanément, quoi. Ça vient sans qu'on s'en rende compte. Bon. Et la roue de secours était bien dessous, tout ça. Bon. On change la roue. Sur un camping-car, je ne vous dis pas le truc. Ma femme qui m'éclairait avec le téléphone, avec la lampe, bref. Mais on avait la chance que c'était du bon côté. On était contre la glissière de sécurité, là. Donc ça allait. Bon. À chaque fois qu'il y avait des camions qui passaient, en plus, le camion camping-car, il faisait comme ça. Je dis, Seigneur, tu gardes le camping-car, il n'y a rien qui se passe. Bon, tout ça. Change la roue, on repart. Je dis à Laurence, première station-service, on fait la pression des 4 pneus, au moins on sera tranquille. On fait la pression des 4 pneus, on roule. On roule un quart d'heure, 20 minutes. Et à nouveau, la même vibration. Et je dis, Jean-Marc, arrête de psychoter parce que c'est bon, quoi. C'est réglé, le problème. 5 secondes plus tard, bam ! déflagration. Le camping-car. Laurence qui est pris à côté et tout ça. Et à nouveau, un dégagement, mais encore plus important. En fait, bande d'arrêt d'urgence, on aurait pu être sur un petit bout là, mais non. Un grand, grand truc. Et hop, et je rentre dans ce truc là. Et puis on arrive à se mettre à l'abri. Je descends la roue de l'autre côté, explosée. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a. Pourquoi? Je dis, c'est pas possible. Et là, donc la roue de secours, elle était montée de l'autre côté. Là. Et là, je dis, bon, j'appelle Fred. Fred, le pneu de l'autre côté, il a éclaté. Quoi? C'est pas vrai? Tout, bon, je vous prends ce truc. Il était minuit, quelque chose comme ça. En pleine nuit, je vous rappelle qu'on a 3 enfants dans le camping-car. On était 5. Hein. Bon, on appelle l'assistance. Le gars, il arrive avec son camion. Bonjour, machin, je sais plus comment il s'appelait. Bon. Et il me dit, ah, vous avez crevé, et la roue de secours? Ben, je dis, la roue de secours, elle est déjà montée de l'autre côté, parce que je raconte l'histoire. Le gars, il est avec sa lampe, et il éclaire, il me dit, bah ouais, c'est normal. Et il me dit, le camping-car, il me dit, regardez le pneu. Il a 14 ans, il a l'âge du camping-car. Et il me dit, alors là, je m'adresse à tout le monde, et peut-être les gens qui nous entendent sur Internet aussi, c'est que sur tous les pneus, en fait, regardez sur Internet, vous avez un losange, et il y a la semaine et l'année de fabrication du pneu. Alors, le pneu, il peut être rainuré en très bon état, mais en fait, à partir d'un certain âge, les pneus, ils se craquellent, la structure se fragilise, et on peut éclater des pneus à l'avant, à l'arrière, très facilement. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était la parenthèse. Et le gars, il me dit, bon, bah, allez, hop, on va charger le camping-car. Donc, on monte sur le camion, et puis, nous voilà partis, et on arrive à son dépôt. Et puis, on est au dépôt. Et puis, bon, le gars, il me dit, bon, ben, on va appeler l'assistance, parce que machin. Et moi, je me dis, l'assistance. Et je dis, j'ai crevé, c'était un peu avant minuit, qu'est-ce qui va marquer comme heure sur le truc? Parce que Fred m'avait dit, bon, ben, pour payer un jour de moins, en fait, mets l'heure à partir du samedi matin, comme ça, tu seras tranquille. Et je me dis, oulala, s'il faut, on va se payer le truc. Bon. Et puis après, dans le contrat, quand j'ai rempli le contrat, il y avait des franchises, il y avait 500 euros ou 1200 euros de franchise. Je dis, je ne vais pas prendre, imagine, j'ai 500, ça sera. Parce que j'avais essayé 1200, ça faisait monter le prix. Donc j'ai dit, non, je prends le minimum. Bon. Et puis, donc le gars, il me dit, bon, ben, on va appeler l'assistance. On appelle l'assistance, je donne le numéro. Bon, ça dure un peu longtemps, il ne trouvait pas, après il trouve. Ok, d'accord. Le remorquage, 960 euros. 960 euros. Et le gars au téléphone, à l'assistance, ouais, bon, ok, d'accord, il lui donne un numéro, c'est bon pour la prise en charge, tout est pris en charge. Il n'y avait aucune franchise, rien du tout. Ok, je dis déjà merci Seigneur, parce que ça. Moi, j'avais les chiffres en tête, je me suis dit, oulala, il va me dire, ah oui, mais l'autre au téléphone, il va me dire, il y a une franchise, rien du tout. Et puis après, le garagiste, en fait, le gars qui nous avait remorqué, il nous dit, parce qu'on était sur son dépôt, il nous dit, bon, ben là, maintenant, il faut contacter un taxi pour 5 personnes. Et puis, il y a un hôtel pour pouvoir vous loger, parce que c'est compris dans le package, en fait. Et puis, il me dit, bon, ben, on rappelle l'assistance. Donc, je rappelle l'assistance et on lui dit, bon, ben, là, il nous faudrait ça et ça et ça. OK, bon, ben, je me renseigne. Et puis là, le temps passe. Et puis, le gars, il me dit... alors, on parle déjà du lendemain. Puis il me dit, bon, là, vous êtes là et vous avez vos pneus crevés. Il me dit, vous comptez faire quoi? Ben, je lui dis, je ne sais pas. Je vais appeler mon ami demain matin et puis je vais lui dire, je ne sais pas comment on va faire, parce que là, le week-end, il est foutu déjà pour nous. Il me dit, non, mais bon, écoutez, vous savez, moi, j'ai là, dans le garage, on a un système de... On fait de la mécanique aussi. Le gars, il me dit, si vous voulez, demain matin, je prends contact... C'était samedi matin, hein, donc le lendemain matin. Je prends contact avec un marchand de pneus. Et puis, bah, peut-être qu'ils les auront. Et si vous voulez, je peux vous les changer. Moi, il n'y a aucun problème. Comme ça, vous repartez. Je dis, ben, ouais, ça serait une très bonne idée, quoi. Alors que là, oui, le garage était fermé. Et le gars, il me dit, bah, si vous voulez, c'est fermé, mais je vous le fais. Moi, il n'y a aucun souci. Je dis, gloire à Dieu, quoi, parce que là, ça, c'était encore une bénédiction. Bon, et puis, l'assistance mettait tellement de temps, en fait, à nous répondre que le gars, je lui avais posé la question un peu avant, je lui avais dit, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on dorme là, sur votre parking? Je lui ai dit, c'est un camping-car, on a tout dedans, hein, on a des toilettes, une douche, de l'eau, on a à manger. Ah, non, il me dit, c'est complètement interdit, on ne peut pas du tout le faire, parce qu'on a un système de vidéosurveillance, avec si jamais... c'est impossible, impossible. Bon, d'accord. Et puis il se passe du temps, et puis je dis au gars, je rappelle l'assistance parce que voilà, il faut savoir ce qu'ils font. Bon, écoutez, il me dit, laissez tomber, il me dit, par contre, vous bougez pas, hein, vous rentrez dedans. Je dis, non, on va pas faire la fête, il est 1h du matin ou 4h du matin, on va rentrer, on va dormir. Ok, le gars, il nous a laissé dormir sur place et tout, on est resté là, tranquille. Le lendemain matin, 8h du matin, il m'appelle et il me dit « C'est bon, j'ai les deux pneus. » Il est venu, il nous a changé les pneus. Bon, ça coûtait cher, mais voilà. Il nous a changé les pneus et puis on est reparti et on a fait notre week-end, quoi. Et après, en en parlant avec Fred, Fred, il me dit « Mais il fallait que ça tombe sur toi, en fait. » Il me dit parce que... Il me dit « Imagine-toi, ça serait tombé sur quelqu'un d'autre au fond de la France. » Il me dit « Il m'aurait fait des problèmes, mais terribles, quoi. » Voilà. Et c'est vrai que ça aurait pu être ça. Je dis parce que nous, on a été bénis, parce que finalement, on n'a pas eu d'accident. Parce que dans ces cas-là, il y avait un camping-car, en fait, qui était juste à côté de nous, sur le parc, là où on était garé. Le gars, lui, il avait aussi éclaté un pneu. Et ça avait arraché les durites de frein, les câbles d'ABS. Ça avait tout arraché, en fait. Ça avait tout cassé. Et le monsieur, le dépanneur, me dit, si vous saviez le nombre d'accidents de camping-car qui se couchent sur le côté ou quoi, quand ils éclatent des pneus. Et je lui dis, bah ouais, bah nous, on est passé à côté de ça. Voilà, donc on a été... C'est vrai que... Et on a, finalement, on n'a rien perdu parce qu'on est reparti le lendemain matin et puis on a passé notre week-end, c'était tranquille, quoi. Donc tout ça pour dire que des fois, on se dit, quand on marche avec le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Ben c'est facile, tout est lissé, en fait. Hein. Les bosses, elles sont mises à plat. Et puis, ben, des fois, on ne s'en rend pas trop compte. Ben, des fois, je pense qu'il faut peut-être se retourner un peu et dire, hein, merci Seigneur, parce que ça aurait pu se passer comme ça, et puis ça comme ça. Et tu nous as gardés. Amen.
Gloire à Dieu. Merci. Alors, franchement, alors, il y a juste pour l'anecdote, Laurence disait, les pneus ont une durée de vie de 6 ans. Donc, petit détail, on va tous vérifier l'âge de nos pneus qu'on va sortir. Mais c'est une bonne information. Et puis, quand on sera au ciel... Je suis sûre, en tout cas, moi, je veux que le Seigneur me montre ce à côté de quoi je suis passée. Parce que, vous savez, la Bible nous dit que quand on a un projet, il faut qu'on le recommande à Dieu. Très souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils prient quand ils sont dans une situation, bonne ou mauvaise. Ils prient. Ils disent « Oh, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Ou alors, ils sont dans une situation difficile, les choses ne sont pas du tout passées comme ils auraient voulu, et là, ils se mettent à prier. Non, c'est avant qu'il faut prier. Avant. C'est-à-dire que quand on part en vacances ou pour un déplacement, eh bien, avant de dire « Est-ce que j'envisage ces vacances maintenant ? Est-ce que c'est le bon moment que je prévois ces vacances dans 6 mois ?» Est-ce le bon endroit ? Voilà, Seigneur, j'aimerais aller dans telle région de France, dans tel pays ou avec telle personne. Est-ce bien, Seigneur ? Parce que sinon, il y en a qui vont se dans 6 mois d'ici, ils vont être dans un endroit et il va leur arriver des tas de pépins et ils vont dire « Ouais, je ne comprends pas, regarde, ça m'a fait perdre l'argent ou j'ai eu un accident ou ci ou ça. » Et à vrai dire, le Seigneur dit « Mais si tu m'avais posé une question, je t'aurais dit « N'y va pas ». Ou alors je t'aurais dit pas maintenant, ou je t'aurais dit non, pas là, ailleurs. Et la Bible nous encourage à présenter nos projets au Seigneur afin que nos projets aboutissent. On a un tel libre arbitre que vraiment on peut décider ce qu'on fait dans la vie. Mais ce qui est intelligent, c'est de susciter la sagesse de Dieu. De dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire. Et la raison pour laquelle on demande au Seigneur de sous-peser, je dirais, nos projets, nos plans, les prévisions que l'on a, ça n'est pas parce qu'on se dit, oh là là, il va m'enquiquiner, tu vas voir, tous les coups, je te parie, il me dit non, quoi. Mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a confiance en son amour. Seigneur, voilà, tiens, je te présente tel projet, tel projet, tel projet. Par exemple, dans quelle école ? Il y en a qui sont peut-être en train de décider de l'école où ils doivent amener leurs enfants. Naturellement parlant, il serait logique qu'ils les amènent dans telle école. Et vous savez, nous, notre logique, elle ne va pas plus loin que le bout de notre nez. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois dans telle ou telle école. On ne sait pas quel instituteur, quel prof, quel programme. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir décidé, ça c'est un tuyau que je donne, avant d'avoir décidé, d'avoir arrêté une décision, il faut la présenter au Seigneur. Seigneur, voilà ce que je pense faire. Seigneur, donne-moi ton avis sur la question. En général, les gens, ils s'attendent à « bon ben, Dieu va me parler ». En général, Dieu ne dit rien. Tant que Dieu ne dit rien, eh bien, je vais avec ce que j'ai pensé. Parce que le Seigneur veut que l'on soit, qu'on ne soit pas des gens qui... il veut qu'on garde notre autonomie de réflexion, je dirais. Donc, tant que le Seigneur ne dit rien, hop, je continue sur la voie dans laquelle je compte m'engager. Et au fur et à mesure où j'avance, je demande des confirmations, je dis, bon Seigneur, alors c'est OK, hein? D'accord, voilà. Maintenant, tu sais, je continue. Si jamais il y a quoi que ce soit, le Seigneur, là, nous parlera. Pourquoi ? Parce qu'on l'a invité et que Dieu n'est pas le père du mensonge. Et à un moment donné, il va nous arrêter, il va nous faire comprendre, ou alors il y a une porte qui va se fermer, et là, hop, on arrête. On dit, Seigneur, bon, puisque tu m'arrêtes sur cette voie-là, montre-moi quelle autre dois-je emprunter. C'est aussi simple que cela. Mais très souvent, c'est quand nous sommes dans la situation, quand les gens ont déjà déménagé, qu'ils sont déjà dans tel quartier, qu'ils ont déjà pris, accepté tel emploi, et là, ça commence à sentir roussi, ça ne se passe pas comme on pensait. Là, on dit, Seigneur, à l'aide, il va nous aider, mais vous comprenez que c'est plus difficile de défaire une pelote qui est bien emmêlée, de la laine qui est bien emmêlée, plutôt que de défaire une pelote qui, elle, est bien enroulée. Donc ça, peut-être que dans le choix de ceux qui décident de partir en vacances, peut-être qu'avant, il serait bien de dire, Seigneur, moi je pensais aller faire tel voyage, et puis le Seigneur m'a dit, non, va ailleurs. Et la joie que j'ai, je ne peux même pas vous dire. Donc du coup, ben, y a une expectative, on sait qu'on est au bon moment, au bon endroit. Ok, puis-je avoir... Oui. Oui, oui, oui. Je la regarde droit devant et... Oui, Lydia, viens.
Deux témoignages courts, c'est possible?
Déjà un, vas-y.
Je ne sais pas lequel, c'est dommage. Bon, on y va pour le... Bon, c'est difficile, j'en ai deux, mais bon, je vais faire celui-ci, même s'il y en a qui le savent déjà, c'est pas grave. Alors, il y a à peu près un mois de ça, j'ai pas prié pour ça, mais j'en ai parlé au Seigneur, et... Non, j'ai pas prié, j'ai juste dit, ça serait bien, Seigneur, si j'avais ça. Ah bon. Ben, à mon sens, c'était pas réellement...
Je m'ai... 3 heures,
non. Voilà. Et donc, il y a un mois de ça, en fait, voilà. Bon, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, ça serait bien si j'avais ça. Parce que j'en ai marre des vélos bleus qui sont tous cassés. Et il y a un mois, je discutais avec quelqu'un de l'église et qui m'a dit, mais attends, tu veux un vélo? J'en ai un. Débarrasse-moi de ce vélo, je n'en peux plus. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que la personne m'a dit. Et en fait, un vélo tout neuf, élégant, pour la plupart, vous l'avez vu. Et donc, il m'a été donné... Ah, la cerise sur le gâteau. En fait, c'est vraiment super. Donc, il me dit, écoute, prends-le, trouve-toi un endroit pour le garer. Et puis, j'en ai parlé avec Anna, et Anna, elle m'a dit, vois, prie avec le Seigneur, il va te donner un endroit. Puis j'ai commencé à parler, puis effectivement, j'ai un parking dans mon immeuble, je plaide le sang de Jésus tout le temps dessus, je vais le voir tous les jours quand je ne l'utilise pas, non plus. Et en fait, bon, je lui fais confiance, il me l'a donné. Donc voilà, 2 jours après, je vais rendre visite à mes parents, en fait, à Poliani, enfin à la maison de retraite, et je vois un antivol sur un vélo qui était juste à côté. Et je dis, tiens, c'est marrant, ça me plairait bien un antivol comme ça. La personne de l'église me rappelle, me dit, écoute, l'antivol que tu as, il faut que tu me le rendes, je dois le rendre à la personne, mais j'en ai un pour toi. Et l'antivol, en fait, qu'il m'a donné était quasiment identique avec celui que j'ai vu à la maison de retraite. C'était trop marrant. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Le Seigneur a beaucoup d'humour. Donc, voilà.
D'accord. Et l'autre, alors ?
Alors, l'autre, c'est qu'il y a quelques mois, je me suis retrouvée... Je crois que personne n'est au courant par Béa. J'avais pas envie, je voulais garder les yeux fixés sur le Seigneur. J'ai eu beaucoup de difficultés financières. Tout se déchaînait autour de moi, mais vraiment, hein, plus. Et je crois que le Seigneur a voulu en fait que je travaille sur ses peurs. Et il a fallu que je lui fasse confiance. Mais j'ai ramé en fait, j'ai beaucoup ramé pour y arriver. Je me suis aidée d'un livre, vraiment je vous le conseille. Mais c'est un livre que jamais je vais quitter, hein, que jamais je me séparerai. C'est un livre de Kit Butler, « Comment gérer la pression ». J'ai commencé en fait à le lire parce que tout se déchaînait, donc je ne pouvais plus, j'étais arrivée au bout du gouffre, hein, je ne pouvais plus. Et même les interlocuteurs que j'avais au téléphone, je leur disais, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Ça m'est complètement égal, de toute façon, je n'ai pas... Moi, je n'avais pas de solution. Hein. Dans le naturel, je n'avais pas de solution. Mais vraiment pas. Et quand on... Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on... J'ai tendance à fonctionner avec mes propres forces. Donc, j'apprends à lâcher. Et j'ai commencé à lire ce livre. Mais vraiment, il est très pragmatique. Il parle de tout. Il n'a rien oublié. Rien. J'ai commencé à me saisir des versets. Et en fait, les circonstances ont commencé à changer. J'ai eu des remises de dettes. J'ai eu des bénédictions financières aussi. Le Seigneur, en fait, je dis, écoute, Seigneur, je n'ai pas de solution, mais toi, tu as la solution, alors je te donne tout. De toute façon, tu existes, tu es vivant, donc voilà. Et les circonstances ont changé.
Bien. Gloire à Dieu. Donc, on peut dire que tu as vu Jésus agir dans cette situation. Oui, Émilie ? C'est super d'entendre différentes choses que le Seigneur fait.
Moi, j'avais à cœur de partager. Je n'ai pas témoigné de la manière dont je suis devenue enseignante de l'éducation nationale. Donc, rapidement, avant, je suis diplômée d'école de commerce, donc marketing. J'ai travaillé 3 ans dans le marketing et j'ai bien vu que ce n'était pas ma voie. Et ensuite, je suis devenue enseignante, mais autoproclamée. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même passé le concours de professeur d'anglais, mais ce qui m'était reproché souvent, c'est que je n'étais pas anglo-saxonne. Donc on recherchait des... J'avais le diplôme. Voilà. Moi, j'avais l'accent, je ressemblais, mais comme je n'étais pas anglo-saxonne, et que j'ai menti quand même quelques fois, mais ça passait. Mais j'avais du mal à trouver... J'avais du mal à trouver un poste.
Avant Christ ?
Oh, bien sûr. C'est fini maintenant.
C'est important de le dire quand même. Vous ne trouvez pas ?
Ah. Bon, maintenant j'ai plus de mal à mentir.
Avant Christ dans sa vie antérieure.
Voilà.
Elle faisait des petits mensonges.
Donc j'avais du mal à trouver un poste à temps plein parce que tout le monde cherchait quelqu'un d'anglo-saxon pour enseigner. Bon, alors du coup j'ai enseigné le français. Mais le problème c'est que j'avais pas de diplôme. Là pour le coup j'avais la nationalité, mais j'avais pas le diplôme pour enseigner le français. Donc et là comme les Français demandent le diplôme. Donc j'ai passé 3 ans et c'est comme ça que je suis arrivée aussi à l'église. J'avais pas de légitimité en fait en tant qu'enseignante. Soit il me manquait le diplôme, soit il me manquait l'identité, la nationalité. Et ensuite le Seigneur m'a ouvert en fait, m'a donné la possibilité. Pourquoi je tenterais pas le concours de l'éducation nationale? Et donc normalement il faut un master aussi. Donc un master, il faut un master de l'université, mais mon école de commerce n'était pas reconnue par l'État. Donc en fait, mon dernier diplôme, c'était un bac. Donc j'avais un bac, une expérience douteuse et une identité douteuse aussi. Donc je me suis dit, mais c'est impossible, Seigneur, comment je peux faire? Et toute ma famille est dans l'enseignement et personne ne m'a jamais dit qu'il existait une autre voie. Et moi, en fait, en cherchant, j'ai cherché, j'ai appelé. Et on m'a dit qu'il y avait une troisième voie. Donc pour tous les concours de la fonction publique, il est permis à ceux qui veulent se réorienter, simplement avec 5 ans d'expérience dans le privé, de pouvoir tenter le concours. Mais personne ne le savait, même ma propre famille, quand je leur ai dit « Mais si, si, je peux, je vais le tenter !» Mais n'importe quoi. Je leur ai dit « Mais si, même 5 ans en tant que serveuse, vous pouvez passer le concours de l'éducation nationale. Il suffit de 5 ans. L'autre, ou sinon vous pouvez avoir 3 enfants, ou être un ancien sportif de haut niveau, mais je remplissais aucun de ces critères-là. » Et donc finalement, je l'ai fait. Il y avait 50 postes pour toute l'académie, pour toute l'académie, donc les deux départements, le Var et les Alpes-Maritimes, quand je me suis inscrite. Et au mois de janvier, quand les postes sont tombés, il n'y en avait plus que 23. 23 postes. Et donc, bon, ben, j'ai pas lâché, je travaillais à côté, etc. Et ça a été, donc j'ai réussi les écrits, mais il y a partout, c'est-à-dire que du début à la fin, c'était vraiment pas du tout par mes propres capacités, parce qu'en mathématiques, elles sont très limitées, et le concours était vraiment parfait, l'écrit était à la mesure, en fait, était fait pour moi, en fait. C'est exactement, j'ai eu la moyenne pour pouvoir passer les écrits, et ensuite les oraux. Mais j'ai raté la préparation, on avait 20 minutes de préparation, je suis tombée sur un sujet que je ne connaissais pas, un sport que je ne connaissais pas, qui s'appelle le tchoukbal. Le tchouk, donc j'ai jamais entendu parler du tchoukbal de ma vie, je devais en parler pendant 20 minutes, et ensuite je devais parler de l'école maternelle, je piochais école maternelle, j'ai jamais mis les pieds dans une école maternelle. Tous ceux à qui j'ai enseigné, d'ailleurs, c'était dans une école élémentaire, j'ai jamais mis un pied dans une école maternelle, et ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'élémentaire. Donc voilà, je me retrouve à l'oral. Donc le tchoukbal, c'est... Ben non, c'est les jurys qui m'ont dit ce que c'était. Donc c'est un sport collectif qui permet de préparer le rugby. Donc en fait, on fait rebondir la balle sur un plan incliné, et le rebond est aléatoire. Voilà. Donc, mais enfin, bref, non, mais c'était impossible. Je suis sortie de là, j'ai dit, mais c'est terminé, je ne pourrai jamais avoir les oraux. Je ne connaissais rien du tchoukbal et rien de l'école maternelle. Puis bon, le Seigneur a opéré, je suis arrivée 13e sur 23. Voilà, donc c'était... Et donc là, c'est ma deuxième année. Donc c'est ma deuxième année en tant qu'enseignante. Et voilà, je remercie vraiment le Seigneur, parce que à chaque fois que je rentre dans une école, il y a vraiment cette légitimité qu'il m'a redonnée, et donc non seulement spirituelle, mais aussi dans le naturel. Et à chaque fois, je suis vraiment la maîtresse qui arrive. C'est plus, je m'excuse plus d'être là, en fait. Et voilà. Et là, les personnes. J'ai des amis qui ont tenté le concours avec moi, c'est la deuxième fois, et ils l'ont toujours pas cette année, alors qu'ils étaient bien plus qualifiés que moi. Donc voilà, merci Seigneur.
Eh ben dites donc, hein, c'est quelque chose, hein. Le tchoukbal. Avoir un examen sans pouvoir répondre au tchoukbal et sans jamais avoir été à l'école maternelle et postuler pour un poste d'enseignant. Franchement, la moindre des choses, c'est qu'on peut dire que Dieu fait ce qu'on ne peut pas faire. C'est exactement cela, c'est être témoin de ce que Dieu a fait. Et la vie avec Christ, Émilie, est plus simple que la vie sans Christ. On peut dire, non ? Eh ouais. Bien. Est-ce qu'il y aurait un dernier témoignage ? Oui ?
Bonjour à tous. En fait, moi, je voudrais témoigner par rapport à mon père que j'ai vu pour la fête des pères, juste la veille de la fête des pères. Mon père a 78 ans. Et il est croyant, mais pas pratiquant. Il sait que je prie, mais bon, voilà, après, c'est pas un sujet de discussion qu'il aime particulièrement. Et on s'est baladé, mon père marche beaucoup, alors qu'il y a 3-4, il y a peut-être 5 ans maintenant, il s'est cassé le pied gauche, donc lors d'une chute. Mais c'est quelqu'un qui marche beaucoup. Et donc, j'étais avec ma belle-mère qui a 12 ans de moins et on est allé se balader à Cannes-sur-Mer, sur le bord de mer. Et en fait, il y avait un espèce d'Ironman à l'époque. Donc, en fait, le trottoir se raréfie. On était sur du béton. En fait, c'est surélevé, sur un mètre. Et donc, assez large, mais quand même, il faut faire attention à ne pas tomber. Et donc, on a quand même pas mal marché. On est allé de Cannes-sur-Mer jusqu'à Villeneuve-Loubet. Ça fait quand même quelques pas, quoi. Tout se passait vraiment magnifiquement bien. J'avais prié le matin que tout se passe bien. Et au retour, on marche, tout va bien. Mais même moi, des fois qui suis un peu distraite, c'est peut-être mon côté artiste, je ne sais pas, mais je faisais attention, je dis Agnès, fais attention, parce que le bord, tu peux tomber. Bon, après, je n'ai pas 78 ans comme mon père, mais bon, une chute, voilà, passe-toi-en, c'est très bien. Et donc, mon père était devant, il marchait tranquille. Et j'étais avec ma belle-mère derrière lui, on discutait tranquillement. Et alors là, je vois mon père, 1m85, qui part en avant sur le béton. Donc en fait, il s'est pris les pieds. Donc vous savez, ces espèces de sandales que les Allemands adorent et qu'on met les soquettes dedans, c'est avec les lanières, des scratchs. Et avant de partir, j'avais vu ses chaussures, je m'étais dit, mais elles sont pourries ces chaussures. J'avais envie de lui dire, mais t'en as pas d'autres et tout. Mais bon, il les aime bien, il est confort dedans. Donc voilà. Et j'ai su par la suite que même ma belle-mère voulait qu'il les jette, mais non, il était têtu. Il a voulu mettre ses super chaussures. Voilà. Non, mais et bon, et alors, il faut savoir aussi sur ces bancs de béton, en fait, ces kilomètres de béton, ils sont des fois un petit peu amochés. Ils ne sont pas plat, quoi. Donc, des fois, il y a des choses qui ressortent. C'est pas. Il faut quand même regarder où on met les pieds. Et donc, mon père, voilà, ben, il s'est mis le pied, s'est pris le pied avec la chaussure dans une petite bosse. Il est parti de tout son long. J'ai encore l'image dans ma tête. Et bam, il tombe. Bon, 78 ans, il avait aussi une tendinite de l'épaule, enfin, bon, des petits tracas, et merci Seigneur, c'était résorbé. Et là, ma belle-mère, je vois la tête de ma belle-mère, la peur, et je crois qu'elle est tombée dans les pommes. Et là, mon père, donc, par terre, et je le vois, je dis, non, Seigneur, il n'a rien. Seigneur, il n'a rien. Et là, il était déjà tombé, donc, pour prier, c'était, voilà, une chute, c'est en une fraction de seconde. Et je dis, non, Seigneur, il n'a rien. Je regarde mon père, tu n'as rien, quoi. Merci Seigneur, il n'a rien. Et en fait, donc, il n'arrivait pas à se lever. Et on a eu un déploiement de jeunes autour de nous, de tout âge, qui sont venus nous aider. C'était fantastique. Tout âge, vraiment, c'était une solidarité incroyable. Parce que, bon, il fait quand même le poids qu'il fait, hein, il n'est pas gros, mais donc, ils l'ont aidé à le remettre debout. Déjà, il a pu aller debout. Donc, en fait, au final, il a eu simplement une petite blessure au genou, mais il a tapé la tête contre le béton. Et il y a un monsieur d'ailleurs qui m'a dit votre père, il vous le dira peut-être pas, mais là, je l'ai vu, il a tapé la tête. Et là, je dis Seigneur, et je priais en langue, mais dans ma tête, ou en tout cas, j'étais. Voilà, c'était très très rapide. Et je dis non, il n'a rien, au nom du Seigneur, il n'a rien. Et on est reparti à pied, quoi. Donc mon père n'a rien. C'était un miracle. Même lui le dit. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû me fracasser. Il est tombé de tout son long, quoi, sur du béton. Il a cogné la tête. Donc, il avait juste un petit peu une égratignure ici, le genou. Donc, il y avait des gens qui l'ont soigné, les pompiers, tout ça. On est rentré à pied, quoi. Et voilà, merci Seigneur. Et j'ai une gratitude envers le... Mais oui, alors, c'était très rapide. Donc, c'est vrai que tout de suite, ce réflexe... Et il ne faut jamais désespérer, quoi, en fait. Et jamais se faire prendre de court. Et miracle, non de cesse de... Enfin, voilà. C'est vraiment un miracle. Merci, Seigneur.
Il l'a gardé. Il l'a gardé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Oui, viens, Patrick.
Comme ça a été marqué, on est des témoins, hein. On est témoins de Jésus-Christ où on va. Et simplement, le petit témoignage que je voulais apporter, c'est qu'on est de plus en plus attiré pour prier pour les malades. Je ne sais pas si c'est vous. Pour moi, personnellement, je suis de plus en plus attiré de prier pour les malades et de voir de plus en plus de guérisons. J'ai vraiment ça dans mon cœur. Et quand on était sortant de l'évangélisation, j'ai eu un contact avec un monsieur qui s'appelle René, qui a été opéré, je ne dirais pas le nom de l'hôpital, bien sûr, qui a été opéré à un hôpital à Nice. Et suite à l'opération, il devait prendre des anticoagulants. Et ils ont oublié de lui donner. Ce qui fait qu'il a fait un AVC. Bon, là, il est en procès actuellement. Son épouse s'appelle Jeannine et tout. Et je leur ai posé la question indiscrète. Est-ce que vous voudriez que je prie pour votre mari? Tout ça, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Il était bloqué tout du côté gauche. Hein. C'est-à-dire là, les jambes, enfin partout. Et je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Et j'ai prié. Et juste après, je lui ai dit, maintenant, commencez à bouger. Je lui ai dit à René, c'était encore un petit peu difficile. Il avait du mal parce qu'il était complètement bloqué. Je lui ai dit, ça fait rien, je vais reprier une deuxième fois. Et j'ai prié une deuxième fois. Et suite à la prière de la deuxième fois, il a commencé à bouger à gauche. Il a commencé à bouger ses pieds. OK, après, je l'ai encouragé. Et j'ai encouragé son épouse, par rapport à la parole de ce qu'elle disait, par rapport à la guérison, de déclarer ces choses-là et que je continuerai à prier pour René et puis aussi pour Jeannine, pour son salut. Voilà. Après, il y a une deuxième personne que j'ai vue aussi, c'était une dame qui avait des problèmes dans ses pieds, de l'arthrite et de l'arthrose. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que j'ai très mal aux pieds. J'ai prié pour elle. Je lui ai pas demandé qu'elle aille marcher, bien qu'à d'autres, j'avais demandé et elle, j'avais pas à cœur de la faire marcher. Elle m'a dit, j'ai ressenti quelque chose dès que vous avez prié. Voilà. Gloire à Dieu. Hein. Le Seigneur est en train d'agir. Hein. Si on le fait, si on fait simplement ses commandements, si on prie pour les malades, si on impose. Et vraiment, quand Jésus était dans son ministère, il imposait, il priait. Il n'y avait pas automatiquement, il parlait, il guérissait les gens, puis après il partait des fois. C'est conduit par l'Esprit de Dieu, ça se faisait. Il y avait l'onction qui était comme ça. Voilà. C'était simplement pour témoigner de choses. Voilà. Super,
merci. Alors, effectivement, quand un chrétien prie pour un malade, c'est pas le chrétien qui guérit le malade. Hein. C'est le chrétien devient un point de contact entre Dieu et le malade. Et Jésus guérit ce malade à travers le chrétien. Gloire à Dieu. Oui, oui, oui. Ok.
Voilà. Il y a quelques mois de ça, j'ai été dans un magasin. J'étais dans un magasin et j'achète. Non. J'achète quelque chose et puis j'arrive à la caisse pour payer. Et la caissière me dit « Oh là là, je m'arrête, excusez-moi, mais j'ai envie de pleurer tellement j'ai mal à mon pied. » Et elle avait les larmes plein les yeux. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Elle me dit « J'ai pas mis mes chaussures de sécurité pour décharger des gros cartons et il y en a un qui m'est tombé sur le pied. » Voilà. Et je lui dis, bah, écoutez, vous voulez que je prie pour vous? Je suis chrétienne, je vais prier au nom de Jésus. Et il y avait un couple juste après qui attendait aussi pour payer. C'était la fin de, c'était la fermeture du magasin. Et elle me dit, oui. Elle enlève sa chaussure, elle enlève sa chaussette et elle met le pied sur le comptoir. Oui. Et moi, je prie au nom de Jésus pour que cette douleur s'en aille, qu'il n'y ait absolument rien, les tendons, les nerfs, les muscles, que tout soit en bon état. Je lui dis maintenant, croyez, gardez votre guérison. Le nom de Jésus a été invoqué, donc il y a une puissance qui a agi déjà en vous. Je rentre à la maison, ce que j'avais acheté, ça ne va pas. Je retourne le lendemain, je la vois et je lui dis, alors comment ça va? Elle me dit, ben, très bien. Très bien, j'ai pu rentrer chez moi à pied et j'ai plus de douleur. Elle me dit, oh, merci. Je lui dis, non, moi non, c'est Jésus qu'il faut remercier.
C'est ça, voilà. Super. Très bien. Bien, eh bien, écoutez, c'est chouette d'entendre cela. Hein. Et puis, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que eh bien, nous sommes des gens de différents horizons et on voit que le Seigneur utilise tous ceux qui sont disponibles. Donc, moi, je rends gloire au Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que vraiment, tu agis. Tu es celui qui agit. Et peut-être que s'il y a des personnes qui sont au milieu de nous qui n'ont jamais accepté le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons demander, mais pas en pensée, nous devons demander verbalement à Jésus de nous donner sa vie. Et s'il y a des personnes qui ne se rappellent pas avoir jamais demandé à Jésus de leur donner sa vie, qui n'ont jamais reçu le pardon de leurs péchés, eh bien, j'aimerais vous donner une invitation. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux, courbe le front, et que chacun se demande, mais si je devais mourir là, où est-ce que j'irais ? Où est-ce que j'irai passer l'éternité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et vous savez, c'est Dieu ne peut pas nous amener de force avec lui au ciel. Il ne peut pas intervenir de sa propre autorité dans notre vie. Il ne fait pas cela. En revanche, si quelqu'un lui dit « Mon Dieu, j'ai entendu que tu es vivant et je ne reconnais pas tout savoir, je ne reconnais pas tout pouvoir. Moi, je te veux bien, viens dans ma vie. Change mon cœur, fais de moi quelqu'un de nouveau parce que je veux avoir la garantie d'être pardonné de tous mes péchés, y compris de ceux que je ne connais pas. Je veux avoir la garantie, quand je quitterai cette terre, d'aller directement au ciel, près de toi, là où sont tous ceux qui t'ont déjà accepté. » S'il y a quelqu'un qui souhaite faire cette prière, eh bien, levez la main rapidement. Si vous souhaitez recevoir Jésus dans votre vie, levez la main rapidement et cela voudra dire, eh bien oui, moi j'ai entendu quelque chose de nouveau, c'est une relation personnelle avec lui. Ce n'est même pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire d'église. Si vous n'avez jamais fait cette prière, eh bien j'aimerais vous aider à la faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, pasteur, prie pour moi? C'est une décision personnelle. Personne peut prendre cette décision à votre place. Mais la joie d'être en règle avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait? Le Seigneur agit. Moi, j'ai fait cette prière. J'avais 22 ans. J'ai regretté ne jamais avoir eu l'occasion de la faire avant. Parce que j'avais compris que mon cœur était vide. Et que la vie, ça n'est pas d'avoir 2-3 maisons, 4-5 voitures. C'est bien, mais ce n'est pas ça la vie. On laisse tout ça derrière nous. Et une dernière fois, je vais relancer cet appel-là. Est-ce que quelqu'un souhaite recevoir Jésus dans sa vie? Vous pouvez sortir, changer d'ici, avec la vie éternelle. Personne ne peut vous la donner. Aucun être humain ne peut vous la donner, cette vie. Lui seul peut vous donner sa vie. D'accord. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce temps que nous avons passé sous ton regard. Et Seigneur, ta présence nous est précieuse. Avec toutes les autres églises de Nice, nous avons invoqué ton nom et tu nous as rafraîchis par ta présence. Merci mon Dieu pour cette nouvelle semaine qui est devant nous. Et Seigneur, nous te confions tous les détails de cette semaine, toutes ces décisions que nous allons prendre. Avant de les arrêter, nous allons t'en parler. Parce que nous croyons que tu veux le meilleur pour nous. Nous croyons que tu es celui qui nous guide par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions être témoins de ton intervention, pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de tous ceux que nous croisons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Et faites attention à vous en cette canicule. Je vais vous encourager, comme vous, plusieurs l'ont fait, buvez beaucoup d'eau. Justement, limitons l'alcool, parce que ça c'est aussi... attention à ceux qui travailleraient dehors. Une dame m'a dit, pour ceux qui font des tâches physiques, de placer une serviette éponge mouillée sur la nuque. Demandez à ma sœur qui tondait la pelouse hier. Et c'est énorme la différence. Prenez une serviette mouillée et elle va absorber la transpiration, mais en plus, elle va vous rafraîchir. Et mouiller aussi les avant-bras, c'est juste. C'est ça, mouiller avant-bras et serviette, éponge, mouillée. Bien mouillée, hein. De toute façon, tout le monde transpire, donc voilà. Oui, ou un lit mouillé, comme on veut. Bonne semaine, vous êtes bénis.